On est en train d'étudier Monsieur Job et les leçons qui vont avec. Et ce matin, Monsieur Job, il va pousser un cri. D'un côté, il a ses ennemis. Ces personnes qui sont ses amis, mais qui agissent comme ses ennemis. Et puis, de l'autre côté, il y a Dieu. Et il sent que Dieu, il est en train de faire des choses dans sa vie qui ne lui plaisent pas. Et Monsieur Job, il va crier, il va réagir. Et à un moment, il va dire, « J'ai besoin d'un arbitre entre vous, mes ennemis, entre ce Dieu qui me fait passer par tout un tas de choses. J'ai besoin d'un arbitre. J'ai besoin de quelqu'un qui va être un négociateur, quelqu'un qui va pouvoir défendre mon cas. » On se souvient, dans le chapitre 1, que face à l'adversaire qui soupçonne ses motivations, vous vous rappelez, ses amis, le diable déjà, hein, il dit, enlève-lui tout ce qu'il a autour et tu vas voir, il te maudira en face. Chose dite, chose faite, Job dit, béni soit le nom de l'Éternel. Il a donné, il a repris. Face à l'adversaire qui, quand on lui enlève son troupeau, ses serviteurs, son travail, son argent, ses enfants, quand sa santé devient défaillante, au point, on a lu les textes, d'être défiguré, d'être couvert d'un ulcère terrible, d'être complètement dépressif, et on le comprend, ayant du mal à respirer, n'ayant plus que la peau sur les os, de la fièvre et finalement plus d'espoir. Job bénit le nom de l'Éternel. Voilà, c'est bien. On va passer à la diapositive d'après. Ce serait gentil. Il n'écoute pas la voix de celui qui lui dit « Abandonne ». De celui qui l'accuse pour ses motifs. Tu n'es pas droit, tu n'es pas juste. Tu fais les choses faussement. Tu parles avec Dieu, tu vas vers Dieu, mais c'est uniquement par intérêt. Il n'écoute pas la voix de son épouse qui fait le jeu du diable, même si elle veut le protéger, qui lui dit, écoute, arrête. Arrête parce que, tu vois, servir Dieu, honorer Dieu, regarde dans quel état ça te met. Alors, une bonne fois pour toutes, abandonne et meurs. Mais la conséquence directe de ces deux événements terribles dans la vie de Job, qui durent un certain temps, c'est que finalement il finit par être exclu. Job 19, 18 dit « Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. » Vous imaginez la situation de M. Job, de cet homme intègre et juste, de cet homme à qui on n'avait rien à reprocher, qui faisait même des sacrifices pour ses enfants, qui veillait à ce que la famille soit bien unie. Il n'écoute pas leur voix. Job a ses amis, vous rappelez, qui viennent et qui font deuil avec lui pendant 7 jours. Quand on vient faire un deuil chez vous et que la personne qui est presque morte, c'est vous, vous interrogez quand même. Hein, quand dans la religion catholique, on voit le prêtre qui vient nous donner l'extrême onction, c'est pas forcément bon signe. Ça veut dire qu'on va pas tarder à passer de vie à trépas. Et là, ses amis, pendant 7 jours, ils ne disent pas un mot. Ils s'assoient. Ils attendent que Job meure. Quel motif d'encouragement, n'est-ce pas? De les voir tenir là, dans une attitude désespérée, triste. Mais ils deviennent ses ennemis. Au chapitre 4 et au chapitre 5, Eliphaz, le philosophe, Il a observé la tradition, il suggère. Il dit, tu es un insensé, Job. Tu récoltes ce que tu as semé. Tu récoltes ce que tu as semé. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé cette définition. Eliphaz, il regarde la tradition du pays, la tradition de Job. Et j'ai trouvé cette définition cette semaine sur la tradition. J'ai trouvé intéressant. Il dit ceci. Il dit, la tradition, c'est la foi vivante des morts. La tradition, c'est la foi vivante des morts. Et il dit, par contre, les traditionalistes, c'est la foi mortelle des vivants. C'est la foi vivante des morts ou la foi mortelle des vivants. C'est-à-dire, ce sont des choses qu'on a pris habitude de faire, mais sans considérer Dieu. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on a appris, mais quand on les connecte à Dieu, des fois, il y a une déconnexion qui se passe. Et Eliphaz, c'est son discours. Et puis, arrive Monsieur Bildad. Monsieur Bildad s'en remet à l'histoire. Il interroge, il suppose, il dit, non seulement tes enfants étaient mauvais, et Dieu a puni leurs péchés, ils sont morts, mais en plus, j'aimerais te dire quelque chose en plus, Job, tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Wow. À un moment, il va leur dire, si vous aviez pu rester silencieux. Et puis enfin, Tsophar assume, il dit, si tu étais si bien que ça, Dieu ne te punirait pas. Ou alors, peut-être, tout ça, c'est la faute de Dieu. Oh, c'est Dieu qui veut toutes ces choses. En résumé, si on pouvait résumer la pensée de ces trois amis, si tu souffres, c'est que tu es pécheur. Ou alors, le contresens, si tu étais sans péché, tu ne souffrirais pas. Quel message encourageant, n'est-ce pas? Et si finalement c'était la faute de Dieu, alors Job angoisse. Job devient amer. Dans Job 7, 11, il dit, c'est pourquoi je ne retiendrai pas ma bouche, je parlerai dans ma détresse. Je me plaindrai dans mon amertume. Il dit dans le chapitre 10, verset 1, « Je suis dégoûté de ma vie, je vais donner libre cours à ma plainte, je vais parler dans mon amertume. » Voilà ce qui arrive quand finalement, on est découragé. Quand finalement, on n'a plus d'arguments. Quand finalement, ceux qui doivent nous encourager, nous faire du bien, nous ont fait du mal. Vous avez vu chapitre 1, chapitre 2, Job, face au diable, résiste. Chapitre 4, 5, 6, 7. Face à ses ennemis, Job capitule. Et il devient amer. Et il dit, si seulement je pouvais rencontrer Dieu, j'aurais des choses à lui dire. Mais là, il parle, regardez bien, hein, d'amertume, de détresse. On est là des fois. Hein. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ça? Et on veut la réponse. Alors Job pousse un cri. Chapitre 6, verset 25. Il dit que les discours droits sont persuasifs. Mais que prouvent vos critiques? Mais ça prouve quoi vos critiques? Que je suis mauvais? Que tout ça c'est ma faute? Que j'ai mal élevé mes enfants, que j'ai pas géré bien ma compagnie, que je me suis pas occupé de mon épouse, que finalement je suis pire qu'un impie. Comptez-vous critiquer des paroles et lancer au vent les discours d'un désespéré? Voilà ce qu'il a dit. Tu vois, j'ai entendu quand il se plaignait, quand il râlait. Finalement, il n'est pas si droit que ça. Vous tireriez au sort même un orphelin. Vous donneriez votre ami. Vous vous rappelez, dans la Bible, il est dit qu'à la fin des temps, les enfants livreraient leurs parents. Qu'à la fin des temps, les enfants livreraient leurs parents. Et dans certains pays, maintenant, on peut faire des procès à nos parents. Et ça vient en France, hein. N'y a-t-il pas un arbitre ? 9.33, n'y a-t-il pas un arbitre entre nous, entre Dieu et puis ces méchants-là ? Et moi, je veux comprendre. Moi, j'ai besoin qu'on m'explique. Je suis tellement mauvais que Dieu m'écrase, alors au moins qu'il me fasse mourir. S'il m'avait fait mourir à ma naissance, au moins j'aurais pas eu tous ces problèmes-là. J'ai besoin d'un médiateur. J'ai besoin d'un défenseur. J'ai besoin que ça soit lui qui décide. Je n'ai plus les cartes en main. Alors, il y a André qui va avoir l'oreille qui va se tendre parce que je sais que c'est un connaisseur. Si Tony avait été là, il aurait aussi pu écouter cette histoire. Le 30 juillet 1966, à la 100e minute de la finale de la Coupe du Monde, Angleterre-Allemagne, Geoff Hurst marque un but. Le but le plus contesté de l'histoire. Après son tir, le ballon a heurté la transversale, la barre au-dessus du but. Elle a rebondi au sol. L'arbitre suisse a hésité un moment, a demandé son avis à l'assistant, et finalement a dit « C'est bon, il y a but ». Les joueurs anglais, eux, ont dit « Non, le ballon n'est pas rentré ». Alors que les Allemands disent « Mais si, 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 il est rentré ». Ils accusent le juge soviétique d'avoir soutenu l'idée. Cette victoire, ce but a permis à l'Angleterre d'avoir la seule Coupe du Monde à son actif. Voilà ce que l'arbitre a décidé, que le but y était. Et depuis, avec toutes les techniques du monde, des chercheurs d'Oxford ont analysé les images 44 ans plus tard et ont affirmé que le ballon n'était pas rentré 44 ans plus tard. Mais des Israéliens, eux, ont créé un logiciel, ils ont dit « si, le but est valide !» Vous vous rendez compte, un but, il y a plus de 40 ans. C'est l'arbitre qui a décidé. Notre arbitre, Jésus-Christ, ne triche pas. N'accourne pas les buts s'il n'y en a pas. Il ne prend pas le bon pour le méchant et le méchant pour le bon. Mais c'est lui qui décide. C'est notre Dieu. C'est notre arbitre. C'est celui qui gère le jeu. Il n'est pas juste l'arbitre entre deux opposants. Mais il déclare à l'adversaire, j'ai déjà payé. Quels sont les critères de l'arbitre ? D'un bon arbitre. Il a du caractère. Il ne se laisse pas influencer. Allez ! Une fois, il y a même un émir qui est rentré sur un terrain de foot, je crois que c'était avec la France, et alors qu'un but avait été accordé, qui a permis que le but ne soit plus accordé. Il a dû promettre des espèces sonnantes et trébuchantes. Il a des compétences, l'arbitre. Il est qualifié. Et non seulement il a du caractère, non seulement il a des compétences, mais il va jusqu'au bout. Il ne s'arrête pas, puisqu'il ne se laisse pas désemparer, parce qu'il a les bonnes qualifications, on ne peut pas les remettre en cause. Il est quelqu'un qui va jusqu'au bout. Job, finalement, dans le chapitre 9, va parler à Dieu. Et il va lui poser trois questions. Et il en avait certainement... 1 million à poser. Chapitre 9, verset 2, il va lui dire, c'est vrai, il écoute Tsophar, c'est vrai que les choses sont comme tu dis, je sais bien qu'il en est ainsi, mais voilà, il pose la question, comment l'homme serait-il juste avec Dieu? Comment est-ce que l'homme peut être juste devant Dieu? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Au verset 14, il va dire, Comment est-ce que je pourrais répondre à Dieu? Quelle parole je vais choisir pour me défendre? Est-ce que je peux contester avec Dieu? Et puis, il va aller poser une troisième question. Finalement, après tout ça, mais pourquoi tu m'as fait naître? Quel est ton plan? Qu'est-ce que tu veux pour moi? J'aurais expiré, aucun œil ne m'aurait vu, j'aurais pas eu de critique, j'aurais pas eu de souffrance. Trois questions. On se les pose ces questions, non? Élément de réponse. Première question, l'homme est-il juste devant Dieu? Chapitre 9, versets 3 et 4. On peut lire ensemble. Je ne les ai pas copiés, ces versets-là. Job, chapitre 9. Il dit, donc après son introduction, comment l'homme serait-il juste devant Dieu s'il voulait contester avec lui? Sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui, la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément? Il transporte soudain les montagnes, il renverse dans sa colère, il secoue la terre sur sa base, et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil, et le soleil paraît, il met un sceau sur les étoiles, seul il étend les cieux. C'est Dieu qui est sage. C'est Dieu qui est tout puissant. C'est Dieu qui est sage. Je ne peux pas contester. Job est amer, Job est anxieux, Job est attristé. Mais dans cette première question, Job réalise, par ses affirmations, que Dieu est sage. Que Dieu est tout puissant. Il peut faire tout ce qu'il veut. Vous vous rappelez sur la barque, hein? Quand il a dit à la pluie, ça suffit, je veux dormir. Il fait des choses grandes et insondables. Des choses étonnantes. Dans le chapitre 18 tout à l'heure de la Genèse, Abraham dit, y a-t-il des choses qui sont étonnantes de la part de Dieu? Marie, à qui on vient annoncer la naissance de l'enfant, y a-t-il des choses qui sont étonnantes de la part de Dieu? Mais vous savez une chose, pour être étonné, faut admettre, vouloir se faire surprendre. Moi, je suis blasé. Tu peux faire ce que tu veux. Quoi des miracles? Oui, ben lui, il va mieux. Ben oui, ben c'est bien, c'est la médecine. Non? On n'est pas un peu comme ça, mes amis? Un peu blasé, arrivé au bout, dire, qu'est-ce que Dieu peut faire de bien? Job, chapitre 9, verset 20. « Si j'étais juste, ma propre bouche, finalement, me condamnerait. Si j'étais juste intègre, elle me donnerait tort. » Il réalise, Job, que nul homme n'est juste. Nul homme n'est juste. Il est couvert de péché, entaché par le péché. Sa bouche, par laquelle devrait sortir la louange, elle ne dit pas que des louanges à Dieu, n'est-ce pas? Romains chapitre 1, verset 19. Dieu nous a donné deux moyens, pour le découvrir, pour le connaître et pour l'apprécier. Ce qu'il a fait, visible, notre conscience, invisible. Dans cette conscience, l'esprit rentre et parle. Romains chapitre 1, verset 19, il dit ceci. « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. C'est Dieu qui pour eux l'a rendu manifeste. En effet, ce qui chez lui est invisible, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit fort bien depuis la création du monde, quand l'intelligence le discerne par ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié, comme Dieu ne lui ont pas rendu grâce. Ils se sont égarés dans des raisonnements futiles. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se prétendant sages. Ils sont devenus fous. C'est des hommes justes ? Laissez-nous, frères et sœurs, avant que Dieu ne nous rencontre comme il a été dit ce matin. Avant que Dieu ne se mette sur notre route comme sur le chemin de Damas, pour l'apôtre Paul. Y a-t-il un homme est-il juste ? La réponse est non. Donc, ces amis qui disent qu'il est injuste, ils ont raison. Alors, question 2. Comment pourrais-je contester ? Comment pourrais-je répondre ? Quel mot choisir ? Quel mot ? Les mots nous manquent. N'est-ce pas ? Pour dialoguer. Pour avoir de la substance. Je suis humain. Il est Dieu. Dialogue difficile, n'est-ce pas ? Dialogue impossible. Et Dieu nous a donné la prière. Cette prière qui nous permet d'avoir un dialogue avec notre Dieu. Et sa réponse, c'est ce qu'il fait dans notre vie. Mais des fois, pour écouter la réponse, il faut faire silence. Et ça, on a un peu de mal à le faire. N'est-ce pas ? Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, si ce verset-là, vous ne le connaissez pas, il faut l'apprendre. C'est le verset du détracteur, c'est le verset qui va faire claquer nos ennemis. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur, un seul arbitre, un seul conseiller entre Dieu et les humains, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est le témoignage rendu en son temps. Car il y a un seul Dieu, un seul médiateur. Pas 25 000. Dans l'église, dans la religion dont je viens, on avait plein de médiateurs. Tous les saints, saint pour saint, saint Émilion, saint Christophe, pardon, voilà, saint Tropez, qui eux pouvaient intervenir gentiment auprès de Marie, qui elle-même pouvait porter quelque chose éventuellement à Dieu, si Dieu était bien disposé. Quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé ? Le voile a été déchiré pour que nous ayons un accès direct. Direct, on passe plus par les saints, saint glinglin, saint et tout. On peut parler directement avec Dieu. On a un accès direct et on cherche toujours les autres accès. Un autre moyen. Un autre chemin. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Il est le médiateur. Jean chapitre 1, verset 14, il est dit « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà le médiateur, voilà cet arbitre. Voilà cet arbitre que Dieu a donné. Comment pourrais-je répondre ? Jésus répond à ma place. C'est lui qui choisit les mots. C'est lui qui a fait ce qui était nécessaire. C'est lui qui me défend quand le diable vient et dit « Il a des mauvaises intentions, des mauvais mobiles. Regarde, enlève-lui ce qu'il a autour et tu vas voir, il te maudira en face. » Vous savez que le diable, il ne s'est pas arrêté à Job, hein ? Mais il l'a fait aussi avec Jean, avec Jean-Claude, avec... Narcisse avec tout le monde. Et il le fait tous les jours. Mais nous avons un avocat auprès du Père. Et nous avons l'Esprit Saint qui nous donne les mots aussi. Ce qui est intéressant, quand on regarde à notre médiateur, il y a des médiateurs, on se dit « Oui, mais ils ne sont pas compétents. » Et j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait que l'arbitre, le médiateur ait du caractère, qu'il ne se laisse pas influencer. Et on a vu que la première chose que le diable a voulu faire, hein, dans Matthieu 4, vous vous rappelez, c'était d'influencer Jésus, de le tenter. Et de notre part, on a un Jésus qui est pleinement homme, comme nous, et qui est pleinement Dieu, pas comme nous. Et donc, qui peut avoir ce rôle de médiateur parce qu'il est comme nous, mais il est aussi divin. Dans Colossiens 2:9, il est dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Pas une partie, pas un peu, toute la plénitude. Il est marqué dans Jean 4:7, « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, Jésus lui dit, donne-moi à boire. » Qu'est-ce qu'il a fait là, Jésus? Il a voulu humilier la dame? Il a voulu dire « Bon, hé, va me chercher de l'eau. » Non, il lui a dit « J'ai soif. J'ai soif. » Jésus était un homme et il avait soif, il avait faim, il a été fatigué. Hein? Dans Jean 11, 35, il a des émotions. Lazare, ça fait 3 jours qu'il est là. Si tu avais été là avant, tu aurais pu faire un truc, mais là c'est trop tard. Et Jésus pleure. C'est son ami. Jésus pleure. Sur cette barque, alors que Jésus vient de faire plein de choses miraculeuses, vient de guérir, on l'a vu cette semaine, un paralytique vient d'expulser un démon de quelqu'un qui était possédé par un démon. Il vient de guérir cette femme qui, depuis 12 ans, avait des pertes de sang. Et là, il part avec ses amis sur la barque. Mais lui, il a travaillé pendant tous ces jours, alors que les disciples n'ont fait que regarder. Et lui, quand il monte sur le bateau, c'est pas pour regarder le paysage, mais c'est pour dormir. Pour reprendre des forces. Et pendant ce temps, la tempête est là. Mais Jésus est fatigué. Il dormait à la poupe sur le coussin. Et ils le réveillèrent en disant, hey, c'est pas le moment de te reposer. Là, c'est l'homme qui dort, mais Dieu, on voudrait qu'il se mette à l'œuvre parce que nous allons périr. J'ai gardé celle-là pour la fin, au moins sur cette partie-là. La dernière partie où Jésus est homme, il meurt. Jean 19, 30. Jésus prit le vinaigre, ensuite il dit « Tout est fini ». Il baisse la tête et il meurt. L'homme est mort. Mais nous savons que le troisième jour, il ressuscite. Parce qu'il est Dieu. Voilà ce médiateur, cet arbitre, il ne se laisse pas convaincre, il a les compétences et il va jusqu'au bout. On doute toujours que Jésus est notre médiateur, que quand on ne comprend pas les choses, quand on ne supporte plus les choses, alors il est important de regarder à lui et de dire « Écoute Jésus, je ne comprends plus rien, je ne sais pas où je vais, mais une chose que je sais, c'est que toi, tu vas m'y amener. » Alors, question 3. Mais finalement, si tu m'as fait, et il le dit dans Job, hein, j'ai oublié de noter le verset, mais il y a un moment, dans le texte de Job, il dit, l'homme est né pour souffrir. Il y a une sœur qui nous a posé cette question vendredi, là, à l'étude biblique. Oui, l'homme est né pour souffrir, tant qu'il reste homme. La non-souffrance, c'est pour après. Et vous vous rappelez, lors de la tentation, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit que c'est à la sueur de ton front, comme ce matin, que tu gagneras ton pain. Toi, la femme, c'est dans les souffrances de l'enfantement que tu te souviendras. Et dans la maladie. Et dans les turbulences psychiques, dans toutes ces attaques. Finalement, pourquoi est-ce que tu m'as fait naître? Pour ça? Pour ça? Finalement, quel est ton plan? Jérémie 29, 11, on l'a appris ensemble. Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention. Déclaration du Seigneur, hein, c'est oracle de l'Éternel dans la version seconde. Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix afin de vous donner un avenir et un espoir. Ce texte n'efface pas la maladie. Ce texte n'efface pas l'accident. Ce texte n'efface pas le chômage. Ce texte n'efface pas les guerres. Ce texte dit que dans le plan de Dieu, Il veut que nous fassions la paix avec lui. Je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Afin de vous donner un avenir. Il n'y aura plus de pleurs, plus de grains, plus de larmes, plus de tristesse. Les anciennes choses auront disparu. Voici, toutes choses seront nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17, d'une manière tout à fait différente. Dans le psaume 33, au verset 11, voilà ce que dit Dieu. Il dit, les projets du Seigneur tiennent pour toujours. Et les pensées de son cœur, de génération en génération. Les projets du Seigneur, vous y croyez ça? On va le lire ensemble alors. Les projets du Seigneur, tout ça avec moi, tiennent pour toujours. Toujours. Et les pensées de son cœur, de génération en génération. Transmettez-le à la génération d'après. Transmettez-le. Qu'est-ce qu'on transmet à la génération? La génération 68, elle a transmis quoi? Ni Dieu, ni maître. Ni Dieu, ni maître. Je ne plierai pas. Je ne ferai rien. Ils sont dans la rue aujourd'hui, cette génération-là. Voilà ce qu'on leur a transmis. Et maintenant, ils attaquent la police, ils attaquent les pompiers, ils attaquent les secouristes, ils attaquent les professeurs, ils attaquent leurs autorités, ils attaquent leurs parents. On a transmis, mes amis, on a gagné. Ils ont compris. On leur a transmis l'amour. On leur a transmis la grâce. On leur a transmis la miséricorde. On leur a transmis la réconciliation. Où étions-nous ces 40 années? Où étions-nous? Rebelles? Le psaume 40, verset 5 ou verset 6. Tu as fait beaucoup de choses étonnantes. Y a-t-il quelque chose d'étonnant? Seigneur mon Dieu, dans les plans que tu avais pour nous, rien n'est comparable à toi. Je voudrais dire ces choses, les proclamer. Elles sont trop nombreuses pour être comptées. Hein, le chant qu'une sœur a entamé tout à l'heure. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien il y en a peu. Combien il est grippe sous Dieu, combien il donne très très peu. Non, combien ils sont nombreux. Ah, pourquoi? Colossiens 25, il est dit, c'est d'elle, cette parole de Dieu, que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu. C'est ça le plan. Le plan, c'est que Job fasse taire le diable. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera. Est-ce que nous le savons? Ou est-ce que nous craignons? Est-ce que nous sommes devenus amers, angoissés, au point de ne plus voir Dieu? Au point de même pas avoir accès à notre médiateur, de dire « Seigneur, ça me dépasse tout ça. Pourtant, tu as un plan. » Colossiens 28, il est dit « C'est lui qui nous annonçons en avertissant tout homme, en instruisant, regardez bien, tout homme, en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. » C'est le plan de Dieu. Colossiens 1, 25 et Colossiens 1, 28. Annoncer tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait. Nous avons besoin de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons besoin de cet arbitre. Nous avons besoin de nous approcher de lui. Nous avons besoin de le laisser prendre direction de nos vies. On en a plein de pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ça? La réponse est, ça fait partie du plan. Mais je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. On peut s'interroger. C'est la démonstration française, hein, ça. C'est problématique. Et on a ce jeune enfant, hein, qui se pose des questions en se disant « C'est bien compliqué ma vie, n'est-ce pas? Pourquoi je suis né finalement ?» Pourquoi finalement je suis venu sur cette terre? Pour souffrir? Eh ben, si c'est ça le plan, autant que je meure. Non, moi je veux contester. C'est le plan de Dieu. Maintenant, il y a mon plan, ce que je veux faire. Auquel ressemblez-vous? À lui? Vous posez des questions? À lui qui dit, tu vas voir, le plan, je vais le changer. Ou finalement, cette maman qui se réjouit d'avoir un enfant. Merci Seigneur, que tu nous donnes. Il y a une bataille au ciel entre le diable et Dieu. Cette bataille, elle a été attestée à Golgotha. Jésus a remporté la victoire. Mais le diable, il est frappé d'une maladie, la maladie d'Alzheimer. Il oublie qu'il a déjà perdu. Il oublie qu'il a déjà perdu. Et il revient sans cesse voir Dieu et lui dire, t'as vu? T'as vu Florence? Oh là 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 là. Oh là, t'as vu Elisabeth? C'est tes enfants? Ah bah dis donc. T'as vu Becky? T'as vu Fanny? T'as vu Franck? La réponse de Dieu est claire. Oui, oui, je les ai vus. Ce sont mes enfants. Au travers du sang de mon fils, ils sont parfaits. Et Jésus d'intervenir, de dire, j'ai déjà payé. Et je suis avec eux. Et je leur ai donné mon esprit. Regarde, ils sont pas bons. Allez, laisse-les aller en enfer. Ça va chauffer. Dieu répond, non, le médiateur a été envoyé, il les rend justes. Dans ce passage ce matin, j'aimerais nous amener à cette question. Qui est une vraie question. Avons-nous besoin d'un médiateur? Avons-nous ce contact étroit avec lui qui permet qu'on n'ait plus de doute, plus d'inquiétude? Que quand il vient susurrer à nos oreilles, tu vas voir ce qui va t'arriver, on puisse répondre, tu ne pourras rien faire d'autre que ce que Dieu te permettra de faire. Il y a un seul médiateur, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même. Lui avez-vous fait confiance? Lui avez-vous confié votre cas? Avez-vous besoin d'une audience? Dans la dernière livrée, dans le dernier qu'on devrait recevoir, Berger d'Israël, de cette semaine. Voilà la première page. Il est marqué, l'avocat du diable s'est éteint. Vous me pardonnerez ce jeu de mots facile après la mort hier soir de l'avocat controversé Jacques Vergès, à l'âge de 88 ans. Cet homme ne fut pas seulement le défenseur des indésirables, Klaus Barbie, Carlos, Saddam Hussein, Milosevic, mais il partagea aussi leurs idées sanguinaires et totalitaires. De la mort, il disait qu'il s'en moquait. Il est quand même regrettable que l'avocat des diables sur la terre n'ait pas songé à préparer sa défense dans le ciel. C'est que devant le tribunal de Dieu, ses arguments seront bien trop faibles. Il aurait pu s'adjoindre le meilleur avocat, il en avait les moyens, le seul capable de le défendre, mais pas le diable. Celui-là est déjà jugé. Ceux et celles qui se sont réfugiés auprès de Yeshua, Jésus, ceux-là seuls savent que la victoire, ils vont l'avoir. Alors mes amis, peut-être ce matin vous posez des questions. Pourquoi suis-je né? Quel est le plan? Est-ce que je peux contester? Est-ce que je peux changer le plan? Sur cette image, ce qui est extraordinaire, c'est que ce coucher de soleil, regardez sur l'eau, projette une croix. La seule lumière qui peut rentrer dans notre vie, c'est la croix de Jésus. Par elle, nous ne voyons pas la mort, nous voyons la vie. Il était la lumière du monde. Amis, ce matin, peut-être vous avez besoin de lumière. Peut-être vous avez des doutes. Peut-être votre vie n'est pas celle que vous attendiez, espérez. Et vous dites, je vais changer les plans. Ce que la parole de Dieu nous a rappelé ce matin par la bouche de Job, c'est que le plan de Dieu est parfait, quoi qu'il arrive. Alors j'espère que ce matin, vous n'allez pas partir en vous posant des questions, mais plutôt en ayant trouvé la réponse. Vous n'êtes pas juste devant Dieu, mais Dieu vous a rendu juste par le sang de Jésus. C'est le seul moyen. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier ce matin. Te remercier parce qu'au travers de cet homme, Job, dont tu nous as laissé la trace, tu nous montres que ce grand Dieu a envoyé sur terre un négociateur, un médiateur, un sauveur, pour que nous soyons réconciliés directement avec toi. L'ennemi revient, il n'a de cesse de revenir dans chacune de nos vies, par la maladie, par les guerres, par le chômage, par les difficultés financières, par les guerres dans les familles, par les argumentations, par les méchancetés. Mais toi, tu n'as de cesse de revenir et de nous entourer de tes bras d'amour, de nous dire jour après jour, je suis mort pour toi. Et je veux te défendre. Alors Seigneur, si ce matin des gens sont venus, des frères, des sœurs, peut-être des personnes qui viennent juste à l'église chaque dimanche, et qui sont venus avec ces questions, pourquoi ? Ce matin, tu veux toucher leur cœur et leur dire parce que je t'aime. Tu veux changer le fait qu'ils soient victimes pour les rendre victorieux. Là où il y a la loi, tu veux leur rappeler la grâce. Si ce matin vous aviez des questions, peut-être vous êtes venu fatigué, lassé, peut-être vous avez besoin que ce médiateur vous rappelle qu'il a les mots pour vous, qu'il a fait tout ce qui était possible. Alors mes amis, ce matin, il faut prendre sa main. Il vous l'attend. Peut-être vous ne comprenez plus la route sur laquelle vous êtes. Peut-être votre GPS, votre guide pour le salut, est un peu déboussolé actuellement. Mais au bout de ce GPS, il y a Jésus. Alors si ce matin, vous aviez besoin d'être encouragé, d'être renouvelé, ou peut-être tout simplement de prendre la main de Jésus, parce que jusque-là, vous ne l'avez jamais prise. Alors la Bible dit, c'est aujourd'hui, ce jour, c'est le moment. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui aimerait prendre cette main de Dieu, qui aimerait s'adresser à son médiateur pour qu'il lui dise « Je suis avec toi, ne te décourage pas. » Afin que tu n'aies pas l'âme découragée, dans Hébreux 12, verset 2. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui voudrait prendre cette main, qui voudrait être encouragé, qui voudrait que Dieu le touche, le renouvelle? Oui, oui, oui. Oui, vous savez ce médiateur, il a donné sa vie et ce matin il vous dit je t'aime, comme tu es, je t'aime comme tu es, sans changer, j'ai payé pour ce que tu es. Y a-t-il encore quelqu'un qui aimerait prendre cette main? Oui, que Dieu vous bénisse. Eh bien Seigneur, tu vois ces mains qui sont montées vers toi une fois encore. Des mains qui sont montées parce que des cœurs ont été touchés. Parce que ta parole, jour après jour, semaine après semaine, change nos vies. Je te remets ces frères et sœurs. Je te remets ces amis sur leur route. Tu sais exactement là où elles sont. Tu sais quelles sont les pensées de leur cœur. Tu sais quand ils s'assied ou quand ils se lèvent. Et je te les remets, Seigneur, afin que tu les bénisses richement. Que tu les encourages et que dans ton église ici à Vigneux, nous devenions des encourageurs. Nous devenions des négociateurs auprès de ceux qui accusent, auprès de notre adversaire qui voudrait que nous décourageions facilement. Merci pour cette paix que tu as encore portée ce matin. Au nom de Jésus. Amen.